Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant. Et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours. Ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Psaume 19, 2 à 5. Bonjour. Bienvenue en ce lieu de culte où nous désirons ce matin célébrer à la gloire de notre Père, de notre Dieu. La gloire de Dieu, comme on vient de l'entendre dans ce chant interprété par l'équipe Face à Face, glorieux. La gloire de Dieu. Le ciel, on vient de le lire dans le psaume, la proclame. Le jour en parle. La nuit l'annonce. Mais pas de mots. Pas de discours. Simplement le silence. Un beau silence. L'oreille n'entend rien. Cependant, ce message de gloire parcourt la terre. Il est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu, par sa création ou dans sa création, par sa présence, parle au cœur des hommes. À nous d'écouter avec notre cœur, de répondre, pas par des cris ou des gémissements, des vaines paroles, mais comme nous le dit l'apôtre, en faisant toute chose pour la gloire de notre Dieu. Et au Niger, en Afrique, ce message est-il perçu? Nous allons le savoir tout à l'heure. Car ce matin, pour ce culte mission, nous accueillons Anne et Jean-François Negrini, ainsi que leurs enfants Elina, Maïka, Naeva et Eyal. C'est bien juste, hein? Ils m'ont aidé avant le culte, hein, parce que je ne me rappelais pas tout. Anne et Jean-François, pas de problème. Elina, elle est un peu par chez nous, pas de problème. Après, ça devient un peu plus difficile. Ils nous apporteront témoignage de ce qu'ils vivent là-bas, de leur vécu. Et Jean-François nous apportera aussi, en lien avec ce qu'il vit là-bas au Niger, le message de la part de notre Père. Alors bienvenue, famille Negrini. Bienvenue à la maison. Vous êtes ici, chez vous, y compris les enfants, hein, vous êtes ici, chez vous. On est content de vous voir et on est content de vous entendre. Pour commencer ce culte, je vais simplement remettre entre les mains de Dieu. Ô notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous accueilles le premier. C'est toi qui nous montres ta gloire. Et tu es présent, toi l'infatigable, l'immuable, l'invisible, l'infaillible. Tu es celui qui est là au milieu de nous. Et nous voulons simplement, par ce culte mission, te célébrer, te remercier, t'adorer. Que nos cœurs soient prêts à entendre ce que tu veux nous dire. En Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons commencer ce culte en chantant le numéro 335, qui est un chant dans ce culte mission d'envoi. Toi, lève-toi.
Bonjour à tous. Merci infiniment pour la place que vous nous donnez ce matin pour partager un peu de notre vécu, pour donner des nouvelles de la famille. Et moi, je vais commencer en vous donnant 2-3 informations sur comment on vit, d'où on vient. Il y a plusieurs personnes qui ne nous connaissent pas ici. Moi, j'ai grandi dans cette église quand j'étais enfant. Et c'est vrai que c'est ma famille. Alors, nous sommes partis il y a 17 ans de la Suisse pour aller au Bangladesh, où nous avons passé d'abord 9 ans. Et ensuite, nous avons, il y a 7 ans en arrière, déménagé au Niger. Alors, il faudrait passer le PowerPoint avec les photos, qui s'appelle « Présentation Merin ». Nous avons passé 7 ans au Niger, et il va y avoir une carte pour vous montrer où se trouve le Niger, en Afrique. Voilà. Et la photo suivante vous montre où nous habitons au Niger. Cette carte, c'est la carte de la sécurité au Niger. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ce pays il y a 2 ans en arrière, quand il y a des églises qui ont brûlé et il y a des conseils de sécurité qui sont assez importantes. Mais personnellement, nous, on habite à Niamey, la capitale, et en ville, on n'a pas de soucis. On peut sortir la nuit, on se fait pas de soucis. Le pays du Niger est situé dans le Sahara, c'est vraiment notre bac à sable, on peut dire. Voilà. Je vous ai mis quelques images pour vous montrer un peu l'ambiance dans laquelle on vit. Alors, l'image suivante montre les détritus qui sont un peu partout dans la ville, malheureusement. Image suivante. Voilà une ambiance de rue aussi, avec le poissonnier qui découpe le poisson que j'ai acheté sur le bord de la route. Une image de notre maison. Je pense que c'est bien que vous puissiez voir qu'on n'habite pas dans une hutte, mais qu'on a une jolie maison. Notre ONG Cure nous accorde en tout cas des moyens suffisants pour bien vivre. Le Niger a certaines beautés qu'il faut un peu chercher. Il y a des couchers de soleil et des levées de soleil comme celui-ci quand on est en train d'aller à l'école. Notre vie de famille se situe beaucoup et tourne beaucoup autour des activités de l'école. Nos enfants vont dans une école chrétienne missionnaire qui s'appelle Sahel Academy, dont vous voyez le logo et les enfants qui sont réunis. Et c'est vraiment autour de cette communauté et des familles qui la comportent que nous vivons et que nous avons des relations avec des expatriés. Jean-François, dans son travail, a beaucoup de relations, bien entendu, avec les Nigériens, mais c'est vrai que dans mon travail à moi et dans mon implication, c'est plutôt par rapport à l'école de nos enfants. Voilà, Naïva. Un bâtiment de notre école, donc qui est assez récent, et c'est une école qui a été créée par la SIM, S-I-M, qui a aussi un bureau en Suisse. Une photo, la suivante, avec la cour de récréation, une partie de la cour de récréation. On a un joli compound avec des arbres, avec des endroits pour jouer. Et mon travail à moi se situe à la bibliothèque. Voilà ma bibliothèque. J'ai commencé à être volontaire à la bibliothèque 2 ans à peu près après notre arrivée. Et puis, petit à petit, j'ai pris plus de responsabilités et surtout, ma collègue, ensuite, est partie, il y a maintenant 3 ans en arrière, et m'a demandé si j'étais prête et j'étais d'accord de reprendre la responsabilité de la bibliothèque. Donc, c'est ce que j'ai fait et on a vraiment... c'est un point central de l'école et les gens aiment beaucoup venir ici. On a un joli budget pour acheter des nouveaux livres. Bien entendu, comme l'école est anglophone, quasiment tous les livres sont en anglais et c'est un endroit que les jeunes aiment fréquenter. Cette année, j'ai fait faire une fresque pour décorer la bibliothèque et c'est une amie qui l'a faite. Notre école organise plusieurs événements au cours de l'année. Un des événements, c'est la journée sportive qui se situe et qui se passe dans le stade de Niamey, donc le grand stade où l'équipe de football joue, où il y a certaines fois des manifestations. Et là, je vous ai mis quelques photos de ce stade et de l'ambiance qu'il y a avec, voilà, Eyal qui court. L'image suivante montre un papa, parce que c'est un événement familial et toutes les familles sont invitées à venir pour supporter et encourager les enfants. Et là, il y a le papa qui court avec sa fille, qui a beaucoup de courage. Et ouais, il y a une ambiance qui est vraiment chouette d'encouragement les uns aux autres. On a également une semaine qu'on appelle semaine... En fait, c'est pour encourager un esprit de groupe dans l'école où chaque jour, il y a des thèmes différents de déguisement. Donc, les enfants se déguisent. Ici, ils sont déguisés en Minions. Et ils défilent dans la cour. Et voilà, au milieu, Elina, en nonne, et avec ses copains de classe. Il y a vraiment une ambiance, bon enfant, d'encouragement. Personne n'a peur d'être ridicule par rapport aux autres, ce qui est assez chouette. Quand je compare un peu à mon enfance ici en Suisse, je trouve beaucoup d'aspects positifs et encourageants dans l'école de nos enfants. Et je trouve que c'est vraiment un apport indispensable, en tout cas, dont on bénéficie, et c'est une grande bénédiction pour nous. Voilà Maïka, en pirate. Une autre image avec sa copine Fiona. Nos enfants ont des amitiés assez fortes avec les élèves, avec leurs collègues de classe. Et parfois, il y a des moments difficiles quand les élèves partent pour une année ou bien définitivement. Donc tout ça, c'est aussi des choses auxquelles on fait face en famille. Quand il y a des départs soudains, et que nos enfants perdent leurs amis, c'est des choses... on est là pour les accompagner. Un autre événement qui a été organisé, où on s'amuse bien, on a fait une sorte de... Enfin, c'était organisé, le basketball sur des ânes. Malheureusement, de manière absolument bizarre, il y a eu une tempête ce jour-là, alors qu'au mois de novembre, il n'y a jamais de tempête. Donc, on n'a pas pu faire, mais il y a quand même eu quelques photos. Voilà, une autre, la suivante, pour vous montrer que nos enfants sont acclimatés, n'est-ce pas? Et on fait venir les chameaux, les dromadaires à l'école pour faire un tour. Une autre activité, un autre événement important au cours de l'année, c'est le banquet, où un groupe d'étudiants qui fait partie du comité des étudiants organise un repas avec des très jolies décorations et sur un thème, et puis une bonne soirée où, en début de soirée, tout le monde s'habille, tout le monde s'habille vraiment sur son 31 pour ce jour-là. Et on peut faire des photos à l'extérieur, comme vous voyez là. Et ensuite, on fait des photos de classe, donc tout le monde est vraiment joliment habillé. C'est la classe de Naeva. Et en fin de soirée, on a un moment de danse où certains ont un compagnon pour danser. Donc, la fin de l'année est marquée par la cérémonie de remise des diplômes pour les élèves de 12e année. Donc, c'est assez un peu comme dans les films, avec l'habit traditionnel. C'est une école qui est quand même très orientée américaine, et donc ils défilent pour entrer, ensuite ils s'asseyent tous devant, donc c'est Elina l'année passée, voilà, avec sa classe, et puis il y a des discours qui sont donnés, et à la fin on fait des photos de famille, et puis les élèves lancent leur chapeau, vraiment comme dans les films. La photo suivante, voilà. Ça, c'est pour vous montrer un peu où est notre vie de tous les jours. Mon implication à l'école me donne aussi une raison, entre guillemets, pour y être et pour être bien, parce que je sais que les femmes de missionnaires ou ceux qui viennent pour travailler et qui elles-mêmes n'ont pas une implication quelque part, en général, elles résistent pas très longtemps, parce que c'est un pays où il y a peu de choses à faire à l'extérieur, on va pas boire un café au centre commercial, on va pas sortir un soir pour aller au cinéma, on va pas se promener dans un parc, enfin, il n'y a pas un lac pour aller marcher au bord. Donc, s'il n'y a pas une activité aussi pour l'épouse, eh bien, c'est assez difficile. Et moi, je remercie vraiment Dieu aussi d'avoir ouvert ses portes. Alors, c'est vrai qu'il faut être un peu proactif, mais Dieu a ouvert les portes pour que je puisse m'impliquer dans l'école. Et je connais tous les élèves de l'école, je connais les étudiants, enfin, je connais le personnel aussi, et c'est vraiment une grande richesse de rencontrer tous ces gens. L'année prochaine, on m'a donné des responsabilités supplémentaires avec l'organisation de tous les examens externes à l'école, des examens qui, en général, que les élèves américains doivent passer. Donc, ouais, je fais tranquillement ma place et mon chemin. Et je pense que pour l'équilibre de la famille, c'est aussi un point positif. Et, ouais, on est heureux là-bas. Alors, je suis contente d'avoir pu vous montrer quelques photos et vous partager ça. Maintenant, Maïka aussi va vous partager deux, trois choses.
Alors, moi, c'est Maïka. Je vais bientôt avoir 16 ans et je vais rentrer en troisième du collège. Et l'année passée, j'ai fait un petit peu des démarches. Je me suis un petit peu sortie de ma bulle introvertie, disons. Et j'ai pu participer et faire partie maintenant d'un groupe d'étudiants qui va participer à une conférence pour les jeunes leaders chrétiens qui se passe en Hongrie. L'école a déjà envoyé deux groupes, donc on est le troisième à avoir la chance de pouvoir y aller. Ça a commencé un petit peu avec le temps pour les leaders, qui était une réunion une fois par mois où on avait une session avec une maîtresse qui nous parlait et nous donnait des conseils sur comment être des meilleurs leaders dans notre vie de tous les jours. Elle nous a donné des choses comme comment reconnaître les différentes personnalités dans des groupes et comment aussi réagir dans des situations de conflit. Et en janvier, on nous a donné l'occasion de soumettre une candidature pour aller à cette conférence en Hongrie. Donc j'ai soumis un dossier et j'ai été sélectionnée pour y participer, ainsi que 5 autres étudiants. Donc on est 6 plus 2 accompagnants à aller là-bas, et ça se passera en fin septembre. Entre le moment où notre candidature a été acceptée et la fin de l'année, en groupe, on a eu plusieurs réunions régulièrement, et on a parlé un petit peu de ce que nous on espérait recevoir de cette conférence, de ce qui serait attendu de nous là-bas, et puis de comment on pourrait se préparer aussi pour cette conférence. On s'est un petit peu concentré sur deux points. C'était la prière et les finances. Chacun de nous doit un petit peu réunir ses propres fonds pour ce voyage, parce que ben, c'est un voyage en avion de Niamey jusqu'en Hongrie, donc ça va quand même coûter un petit peu cher. Donc chacun de nous a envoyé des emails à des gens qu'on connaissait en leur demandant, en leur expliquant un petit peu le projet et en leur demandant s'ils étaient d'accord de prier pour nous et aussi de peut-être nous supporter financièrement. Moi, j'ai eu plusieurs réponses positives, mais il y a quand même des trous un petit peu. Et on va aussi organiser des actions pour récolter des fonds à Niamey, au sein de l'école. Et personnellement, pour contribuer à ça aussi, j'ai fait des cartes moi-même que je vais vendre pendant qu'on est ici. D'ailleurs, elles seront en vente après à 3 francs la carte, si vous êtes intéressés. Et puis, bon, à côté de l'aspect financier, il y a quand même aussi le côté spirituel. Et ben, on a quand même besoin de prières, parce que c'est quand même quelque chose de gros, et Les autres qui sont allés, ils sont revenus changés. Et moi, j'espère que c'est quelque chose qui va aussi se passer pour moi. J'aimerais pouvoir progresser dans ma foi et progresser aussi dans mes habiletés de leader aussi. En groupe, on a choisi deux passages dans la Bible sur lesquels on veut un petit peu baser nos réflexions et nos actions. On veut que ce soit nos passages de base. Donc, je vais vous les lire. Le premier, c'est Éphésiens 5, 1 à 2. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Donc, c'est vraiment notre espoir, c'est d'imiter Dieu et de montrer son amour à ceux autour de nous. Et le deuxième, c'est en 1 Timothée 4, 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta pureté. » On est quand même jeune, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, même maintenant. Donc, c'est notre espoir aussi. Merci.
Jean-François nous apportera le message tout à l'heure et nous parlera aussi un peu de son vécu et lira son message avec son vécu là-bas. Les Negrini, toute la famille, sont nos envoyés. On est église d'envoi de cette famille au sein de notre union d'église, la FRAY. Et comme ils sont là, le groupe en a désiré... excusez-moi. On a désiré les bénir en communauté, de les remettre entre les mains de Jésus-Christ en priant pour eux. Alors je demande à la famille de venir là-devant, ainsi que les personnes. Oui, merci, excusez-moi. On va donc, Roger et Denise vont prier pour la famille, de la part de chacun. Et si quelqu'un se sent aussi à donner une prière ou à dire quelque chose, il peut le faire après nos deux amis. Merci. Oh, merci.
Notre Dieu, notre Père, nous sommes si reconnaissants d'accueillir la famille Negrini ce matin. Merci, je suis émerveillée de voir tout ce qu'ils font dans un paysage tout autre. Ils grandissent, ils s'épanouissent, ils ont l'air heureux. Quelle reconnaissance, Seigneur, et quelle joie, non seulement de les recevoir, mais de pouvoir te les apporter, te les présenter, les bénir chacun, chacune en ton nom. Jean-François, Anne et les quatre enfants. Merci Seigneur pour ce cadeau de partage ce matin. Nous nous rendons compte que suite à un appel, ce n'est pas toujours facile de dire oui et de vivre ensuite, notamment au Niger où tant de choses se passent, mais tu les as gardés. Tu les gardes encore, Seigneur. Et nous te remercions de leur projet d'aujourd'hui, de leur projet de demain, de ces enfants qui grandissent et qui doivent aussi préparer la suite pour eux. Nous te les confions avec confiance, parce que nous savons que tu es fidèle et que tu vas être à leur côté, jour après jour. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.
Sécurité, Seigneur, que tu continues à les garder comme tu l'as fait fidèlement lorsque Ils ont été attaqués à Niamey il y a quelques années. Tu les as protégés, tu as protégé aussi leurs biens et leur hôpital. Seigneur, nous te les remettons tous, que tu continues à les garder, que tu gardes ta main protectrice sur chacun d'eux. Et bénis ce magnifique ministère de chacun de la famille de Negrini. Merci encore, Seigneur, pour leur dévouement. Merci pour leur engagement. Bénis-les, Seigneur. Amen.
Notre Père Céleste, nous te louons parce que tout vient de toi. Les capacités que tu as données à Jean-François et Anne qui peuvent mettre en œuvre pour l'avancement de ton règne. Nous croyons que tu as désiré cette présence au Niger, Niamey, selon les dons que tu leur as donnés. Nous sommes conscients que les enfants vivent les conséquences de ce choix d'obéissance. Nous prions pour Elina, pour Maeva, pour Maïka, pour Naïva et Eyal, Seigneur, dans cette réalité qu'ils ont suivie sans forcément choisir, nous invoquons ta bénédiction sur chacun de ces enfants. Nous croyons que tu as un projet pour leur vie également dans ce parcours. Cette étape a été une partie. Et maintenant, nous te les présentons en te priant de montrer quelles sont les prochaines étapes pour chacun, confiant que tu montreras, tu pourvoiras et tu désires les bénir richement. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.
Amen. Nous allons passer à un temps de louange. Merci aux musiciens. Merci à Denise qui les a choisis et je lui cède la parole. Pendant ce temps-là, les enfants, les jeunes, les ados peuvent rejoindre leur groupe juste en dessous, dans les salles. Merci à eux et aux moniteurs et à tous ceux qui s'occupent d'eux. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans ce temps ce matin et vous réjouisse.
Je lirai le psaume 47 comme introduction. Vous tous, peuple, battez des mains. Acclamez Dieu par des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples et des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu montre au milieu des acclamations, l'Éternel s'avance au son du cor. Psalmodiez en l'honneur de Dieu, psalmodiez. Psalmodiez en l'honneur de notre roi, psalmodiez. Car Dieu est roi de toute la terre, psalmodiez en poème. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Nous chanterons trois chants. Je vous les donne maintenant et puis les cantiques suivront les uns après les autres. Le premier se trouve dans le Gem 1, le 162, « Aller sur les places », qui est un temps de... Un chant d'envoi pour la famille Negrini, mais pour nous aussi. Le deuxième, dans le Gem 1, 294, c'est une affirmation de notre engagement. Et nous chanterons « À toi, nos cœurs et nos vies. Et le troisième, dans le Gem 3, 906, un temps de louange avec Hosanna. Merci à l'équipe des musiciens qui nous accompagnent.
Chaque jour. chaque jour.
Sois le
On va prier pour Jean-François. Seigneur Jésus, merci parce que Jean-François est là au milieu de nous ce matin pour nous transmettre quelque chose de ta part. Nous te prions pour lui afin que ton Esprit Saint, de manière toute spéciale, soit sur lui maintenant et accorde-lui la joie, la paix dans ce temps de partage avec nous. Nous le bénissons tout simplement en ton nom, au milieu de nous. Amen. Merci.
Merci. Merci pour votre accueil, pour le plaisir de retrouver beaucoup de personnes qu'on connaît, voir des nouvelles têtes aussi. Alors, comme moi, je ne suis pas habituellement un pasteur et un prêcheur, de temps en temps, je partage aussi dans notre église, et je souhaitais partager quelque chose avec vous de ce que nous vivons, de ce quoi nous passons, que nous expérimentons un petit peu ces temps là-bas, et le relier avec les éléments que je trouve vraiment au cœur de notre foi et de l'Évangile, parce que je crois vraiment tant personnellement, mais que c'est un appel pour chacun d'entre nous. Si notre foi et notre conception de la foi, elle est déconnectée d'une pratique, on s'égare complètement. Et que le meilleur test pour la réalité de notre foi, tant personnelle, en communauté, c'est la connexion ou les interrogations qu'on ose avoir par rapport à notre pratique. Alors on va juste voir une petite séquence vidéo. Elle attendait depuis un moment, elle a vraiment eu envie de la lancer, mais elle l'a juste retenue. En fait, c'est un nouveau petit clip vidéo qu'on diffuse au Niger par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par Messenger, pour faire connaître un petit peu mieux, dans les coins un peu reculés, ce que fait l'hôpital, les gens, pour quelle sorte de problème ils peuvent venir. Et puis, comme ça a été vraiment très bien fait, je pense que c'est une façon courte, simple, de vous montrer un petit peu ce qu'on fait là-bas. Voilà, ça, c'est une vue de l'hôpital.
Cure hôpital, watu cure likitayara.
Mikema anar cure kuma.
Cure hôpital.
Alors, pour ceux qui comprennent le Hausa, vous comprendrez tout ce qu'il dit.
Wacce ta shahara wajen aikin gyara yare da aka haifa da wata nakasa ko suka same ta daga baya
kamar wace irin nakasa suke gyarawa a wannan likita ta kiyo
suna gyara wadanda aka haifa da tsagaggen lebu wannan kuma har ga manya sauran ayyukan sun shahi yara ne kawai har zuwa shekaru 17 kamar yaran da suka samu wata nakasa bayan sun toyi ko yaran da aka haifa da wata nakasa kamar masu kiyoyin kawu karkoshi gwami ko yara masu tahiya da daki
Alors il a choisi les cas un peu plus caricaturaux quand même, mais
shaka babu bayan aiki iyayen da yaran da aka ma aikin za su farin ciki
da fa hanya ta samu aiki ga ƴaƴanku domin su ci gaba da yin rayuwar su cikin walwala da jin daɗin rayuwa kamar sauran yara sannan kuma hankulan ku su kwanta
Bon, si vous voulez appeler depuis ici, il faut mettre le 0027 pour ces numéros, mais 227. Alors voilà, c'est un petit clip très rapide pour vous montrer un petit peu la diversité aussi des enfants dont on s'occupe qui viennent chez nous. Et je voulais vous un petit peu prendre comme fond de la réflexion un passage d'un entretien en fait avec Jésus et les Juifs de son époque, où il traite de la liberté et de la vérité en association tout à fait reliées l'une à l'autre. Et c'est exactement ce qu'on vit dans un cadre musulman, où le type de vérité qu'on proclame, qu'on dit, en fait, rend les gens libres ou leur donne l'occasion de découvrir une liberté à laquelle ils ne sont pas habitués. Alors, dans Jean 8... Au verset Je lis à partir du verset 30. Il disait, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors ils lui répondirent, « Mais nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Et Jésus leur dit, « en vérité je vous le dis, » le répliqua Jésus, « toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. » C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils répondirent, notre Père, c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez, il le redit une deuxième fois, comme votre père. Et ce texte, il est très puissant parce qu'on pourrait absolument y mettre, non pas les Juifs, mais les musulmans. Parce que les musulmans aussi se réfèrent à Abraham comme étant leur père, comme étant leur référence, comme étant leur exemple. Et cette vérité dont parle Jésus, c'est bien ce qu'on essaye de vivre et ce qu'on essaye d'apporter à travers tout le travail. Parce que les enfants, vous voyez, c'est vrai, c'est le travail qu'on fait. Mais notre personnel, c'est quand même 60% de musulmans. Et une bonne partie aussi de notre mission et de notre engagement, c'est de vivre au jour le jour, dans la pratique de tous les jours, la réalité de l'Évangile et des valeurs de l'Évangile. Et ça soulève pas mal de défis. Alors un des défis qu'on a eu assez récemment, c'est une histoire qui s'est déroulée en salle d'opération, côté anesthésie, où un infirmier formé en anesthésie, en fait, a eu un incident assez sérieux avec un des enfants qui, au moment de se réveiller, a fait un spasme. Alexandre connaît bien ces problèmes-là. Et en fait, a voulu gérer le problème tout seul, sans appeler à l'aide. L'enfant a plongé. Et en fait, c'est une infirmière qui était présente, qui a vu que la situation se détériorait, qui a appelé en urgence le collègue anesthésiste qui est à l'extérieur, qui est rentré, qui a repris les choses en main, qui a récupéré l'enfant. Mais on a été vraiment à deux doigts de perdre un enfant en salle, sur table. Et en fait, comme c'était quelqu'un qui avait déjà travaillé avec nous, que souvent, ça aussi pour moi, c'était une réflexion, un apprentissage de cette grâce qu'on veut véhiculer, qu'on veut partager. On ne veut pas mettre enfoncer les gens, on ne veut pas les clouer au pilori quand il y a une erreur. Quelque part, c'est aussi l'essence de l'Évangile et du parcours de Dieu avec nous, qu'on trébuche tous, parfois on tombe, parfois on passe la tête sous l'eau, mais l'expérience de la grâce, c'est que chaque fois, Dieu est prêt à nous relever, à nous remettre debout et à continuer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre dans la pratique même professionnelle. Et au nom un petit peu de tous ces beaux principes, on a compris que l'infirmier avait fait, et je crois qu'il a compris qu'il avait fait une erreur quand même assez sérieuse, mais on n'a pas formalisé les choses, on n'a pas pris de mesures disciplinaires ou autres. Et en fait, ça nous a engagés dans toute une histoire qui a beaucoup trait justement à qu'est-ce que c'est la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité qui rend libre ou qui affiche, je dirais, les principes de notre foi aussi lorsqu'on les partage avec les musulmans? Parce qu'en fait, cette personne, c'était très clair qu'on n'allait pas renouveler son contrat il n'avait pas un contrat de travail, il travaillait comme stagiaire, mais qu'on n'allait pas renouveler les choses. Mais en fait, comme lui, il a un peu caché dans son entourage ce qui était passé, sans dire vraiment ce qui s'était passé, quand on n'a pas renouvelé ou offert la possibilité d'un contrat, ça a suscité tout un tumulte autour de lui. Et le mari de notre infirmière responsable pour l'anesthésie, qui est un anesthésiste de la place, le responsable même de la formation en anesthésie, a été très mécontent et a fait comprendre à travers son infirmière qui est venue voir notre anesthésiste, qui voulait que sa femme donne sa démission, ne travaille plus avec nous, qu'une des stagiaires chrétiennes qui était placée chez nous soit retirée pour mettre dans un hôpital pour nous coincer sur le plan professionnel pour qu'on soit à court de travail, et sans en parler vraiment officiellement. Et comme c'était quelqu'un avec qui on avait les bonnes relations, on s'est dit comment est-ce qu'on gère un peu les choses. Et là, de nouveau, cette dimension de vérité, elle était au cœur du problème. Et quand je suis allé causer avec une collègue chrétienne qui est allée le voir, qui lui a parlé un peu de la situation, et quand on a mis un peu les choses sur la table de ce qui s'était passé, j'ai eu une dernière discussion avec ce collègue vendredi juste avant de partir, tout d'un coup, ça lui a ouvert les yeux sur ce qui s'était vraiment passé. Parce que comme on est en plus dans une dynamique actuellement où on nous reproche de faire de la discrimination, ça je vous en parlerai aussi, mais de la discrimination religieuse dans notre hôpital, donc tout ce qui se passe autour, toutes les discussions qui ont lieu autour de l'hôpital, dès qu'on ne choisit pas un musulman ou on privilégie un chrétien, tout de suite cette dynamique-là est enclenchée dans toutes les discussions et beaucoup de colère et de revendications sous-jacentes en tout cas. Et en fait, quand ce collègue a compris qu'on a pu lui dire, écoutez, la seule faute que j'ai faite dans cette situation, c'est de ne pas l'avoir mis sur la table, clairement, le jour suivant, avec le collègue anesthésiste avec qui ça s'était passé, et avec ma collègue, et de renvoyer directement la personne, même si c'était difficile. C'est ce qu'on aurait dû faire, et c'est ce que ce collègue m'a dit que vous auriez dû faire. Pour moi, c'est toute une réflexion aussi au niveau personnel, au niveau de la façon de vivre notre chrétienté et l'esprit de grâce, parce que ce n'est pas forcément le type d'attitude et de réaction qu'on veut avoir. Mais je trouve qu'à travers l'intensité du partage qu'il y a là dans ce discours entre Jésus et les pharisiens et les juifs de son époque, il est très direct, il est très clair dans ce qu'il leur dit, il n'est pas du tout diplomatique. Et que c'est un appel parfois pour nous, pour moi, à me reconsidérer la manière dont on vit notre évangile et notre foi. Ce qui s'est aussi passé d'intéressant, c'est que à cause de cet événement et d'autres, je dirais, qui se sont situés dans le domaine des demi-vérités, avec tous les radotages qui sont allés autour, ça m'a paru important d'être transparent avec certaines des personnes clés de l'équipe. Et en fait, j'ai demandé à mon infirmière responsable de venir pour lui dire, écoutez, il faut qu'on parle, que je vous dise certains éléments de la vérité. Il n'y a pas besoin de la dire à tout le monde, mais vous devez connaître et comprendre ces choses-là. Et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, je ne sais pas si notre autre collègue Aminatou, elle s'appelle, devra démissionner ou s'il y aura d'autres conséquences, mais je veux que vous sachiez que si ça survient, voilà les raisons pour lesquelles ça se passe. Et voilà ce qui s'est vraiment passé en arrière-plan. Et en fait, après qu'on ait eu cette discussion, elle est musulmane. Elle apprécie la confiance aussi que je lui fais, parce que c'est vraiment une personne de valeur et de confiance. Elle m'a dit, en fait, il faut aussi quand même que je vous dise quelque chose. Je me dis, ah oui, le jour où ça s'est passé, je me suis trouvé dans une discussion avec ce collègue, avec la responsable infirmière anesthésiste, et avec une autre collègue, où en fait, la manière dont on nous a présenté les choses, dont on y parlait de l'événement, était complètement un peu banalisée et présentée comme étant un problème de conflit entre un médecin, un collègue anesthésiste blanc et un collègue national, et une sorte de racisme à son égard. Et en fait, ce sont mes infirmières qui l'ont un peu confronté en disant « mais il s'est quand même passé quelque chose de sérieux, non ?» Et en fait, cette autre infirmière a dit oui. Oui, effectivement, il y a quand même eu un incident, il y a quand même eu un problème et tout ça. Et en fait, j'ai été content de voir que c'était ces infirmières-là qui avaient pris un petit peu position pour une certaine vérité, de nouveau, pas pour ou contre moi ou pour ou contre l'hôpital, mais pour restituer les faits de ce qui s'était passé. Et en fait, même à ce moment-là, il y avait déjà des problèmes relationnels. Ce stagiaire, en fait, a fait comprendre au cours de la discussion que lui, de toute manière, il était hors de question qu'il reçoive ou qu'il apprenne quelque chose d'un blanc. Alors je me suis dit, eh ben voilà, c'est bien. Donc on vit ces choses dans la pratique, dans cette réalité, dans cette confrontation, et je crois qu'elles sortent de manière apparente, mais elles sortent seulement si on vient mettre la vérité sur la table, dans ce contexte. Alors, ça, c'est d'une des choses qu'on a vécues tout récemment. J'ai encore eu cette discussion avec le collègue responsable de l'anesthésie vendredi matin. Pour moi, ça pose des questions assez profondes par rapport à justement qu'est-ce que c'est cette vérité qu'on proclame avec laquelle on vit. Parce qu'on vit tellement dans une culture relativiste ou subjective par rapport à la vérité. Chacun a sa vérité. Quelque part, d'oser venir aussi comme chrétien, de dire on croit ces choses-là et on vit pour ces choses-là, ça dérange. Ça dérange, ça perturbe, que ça le soit en pays musulman, que ce soit aussi dans notre culture ici, parce que les gens n'ont surtout pas envie de gens, on va vous traiter de radicaux, on va vous traiter d'intolérants. Alexandre a des bons exemples à ce sujet. Et comment est-ce qu'on réconcilie la grâce avec cette vérité? Alors, en prenant le temps de méditer un petit peu sur le type de rapport, le type de discussion que Jésus a eu avec les gens qui étaient proches de lui, avec les gens aussi qui étaient en opposition avec lui, je trouve assez frappant de voir toujours quand même un manque parfois de diplomatie flagrant, même si Jésus était accueillant et qu'il a toujours relevé ceux qui venaient à lui dans des états où ils avaient besoin de pardon et de reconnaissance, mais en même temps il n'a jamais été conciliant, même avec ses disciples. Si on va fidèlement lire la manière dont il s'adresse à eux quand ils sont un peu perdus, quand ils se préparent à le renier, il est très, comme on dit en anglais, blunt, il est très direct, il ne fait pas 36 000 virages. Et dans nos propres vies, parfois, comment est-ce que nous restons dans cette vérité du reçu de l'Évangile, du reçu de la parole que Dieu veut nous apporter? Et c'est quelque chose qui m'interpelle parce que parfois, au prix de vouloir proclamer une grâce qui est accueillante, qui est bienveillante, on met une couverture où on ne veut pas aborder de façon trop directe ou trop offensante ou trop blessante certaines réalités. Mais quand on le fait avec nous-mêmes, avec ce que Dieu parfois nous souligne, avec ce que le Saint-Esprit vient nous mettre dans le cœur, et qu'on continue de fonctionner comme ça, eh bien, progressivement, on s'écarte et on se ferme les yeux à une vérité beaucoup plus profonde que Dieu et que Jésus veut aussi apporter dans nos propres vies, dans nos cœurs. Et la confrontation avec l'islam, quelque part, elle touche aussi essentiellement à ça. Parce que, vraiment, je peux vous dire qu'au travail, vous avez vu un petit peu le passage où il y a des gens qui viennent, qui sortent, c'est assez... On est toujours les uns sur les autres, je dirais professionnellement, hein, dans un bloc opératoire avec des gens qui rentrent, qui sortent, qui... On est proches les uns des autres. Vraiment, les personnes avec lesquelles je travaille, je les apprécie. Je les aime vraiment. D'ailleurs, quand on part, ça me surprend un petit peu, mais c'est un peu comme si, pour les gens que je laisse derrière, je laisse un petit peu une famille au bloc opératoire. Ils me demandent de saluer maman, alors que Anne n'est jamais non plus au bloc. Mais c'est un petit peu cette proximité aussi dans le travail où on s'apprécie les uns les autres. Et notre équipe au bloc, on a 2/3 de notre personnel qui est musulman. Donc c'est quand même une proportion importante qui est là. Et dans le vécu de tout le jour, cette vérité de l'Évangile, cette vérité de ce qu'on est, cette confrontation parfois entre ce qu'on croit et ce qu'on annonce, elle est bien réelle. Et tant ici en Europe qu'au Niger, parfois je crois que les chrétiens ont trop le souci d'être très conciliants. Et en fait, ne pensez pas une fraction de seconde que les musulmans vont vous respecter parce que vous êtes conciliants à votre égard. Ils ne vont pas vous respecter, ils vont vous mépriser. Ils vous méprisent si vous n'avez pas la même hardiesse et courage. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait des choses complètement démentes ou hors de propos, mais est-ce que dans nos cœurs, dans nos vies, c'est ce type de vérité qui nous rend libres, parce que vraiment je crois que c'est ce qu'on expérimente tous les jours, et parfois je l'ai partagé avec certaines de nos infirmières. Vous révérez Dieu, c'est vrai, on le voit, mais vous vivez en prison. Votre révérence pour Dieu, elle est conditionnée par votre environnement, qui est contrôlant par des pratiques. Dès que Plusieurs de nos infirmières musulmanes me l'ont dit d'ailleurs. Elles sont régulièrement interrogées par rapport au fait qu'on leur dit « Ah, mais vous êtes devenue chrétienne alors pour travailler avec Cure. » Puis elles disent « Non, je suis toujours musulmane. » Mais on respecte et on honore cette liberté de ce qu'on est. Mais plusieurs, dans les offices publics, au ministère de la Santé publique, plusieurs m'ont donné ce témoignage que, de manière informelle, on leur disait « Alors, vous êtes devenu chrétien ?» Ils ont dit « Ben non, on est toujours musulmans. » « Puis ils vous gardent ?» Ben oui, ils nous gardent quand même. Mais de pouvoir leur dire aussi « Tout le monde vous contrôle. Tout le monde autour de vous s'assure qu'il y a un cadre précis, la famille. » Et certaines me le disent ouvertement. Ben Marie, qui est peut-être l'infirmière responsable de notre équipe au bloc, me le dit parfois. À la maison ou à l'extérieur, plusieurs fois quand on va à des mariages ou des cérémonies, les gens nous questionnent, nous interpellent nous, par rapport à ça, et c'est pas facile. Et c'est pas facile parce que, quelque part, de manquer de loyauté par rapport aux gens de leur environnement, de leur famille, c'est d'emblée être suspecté d'être devenu chrétien, et puis c'est d'emblée être exclu de tout un réseau de relations qui est essentiel et qui est tellement important pour les Nigériens. Alors, on est en train de vivre ces choses-là, justement dans le domaine de la vérité, parce qu'on a eu d'autres histoires aussi avec des demi-vérités qui ont été manipulées et répandues à l'extérieur de l'hôpital et qui se retournent contre nous actuellement. Et je pense que ce thème que j'avais envie de partager avec vous aussi par rapport à ce que Jésus disait, qu'est-ce cette assurance qu'on a à avoir, pas par rapport à des choses qu'on proclame ou qu'on répète fort ou qu'on nous a répétées suffisamment souvent dans les oreilles, mais par rapport à des références qu'on a dans la Bible, et je crois par rapport à l'attestation aussi que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Quand on proclame Jésus, si on le proclame seulement en parole, mais que ça ne vient pas être confirmé et s'inséré dans une vie de tous les jours qui le démontre pas d'une façon excentrique, une façon déplacée, mais c'est extrêmement clair que le type d'appartenance à Jésus, le type d'exigence qu'il y a quant à le suivre dans sa vie de tous les jours, elle va toujours avoir un impact autour de vous. Et c'est pour ça que ce que je vous partage, je crois que ça rejoint aussi tout le monde et tous ceux qui font profession de suivre Jésus. Les chrétiens, ils ont été persécutés dès le début de la foi chrétienne parce que haut et fort et avec persistance, ils proclamaient leur allégeance à un Dieu qui était souverain, qui était au-dessus de l'empereur. Mais ils ne venaient pas pour imposer la charia, eux. Ils se sont laissés persécuter pendant quand même plusieurs siècles avant qu'un empereur déclare la foi chrétienne comme foi officielle, mais tout le début de l'histoire chrétienne, ça a été quand même l'affirmation répétée qu'il y a une soumission essentielle, une allégeance essentielle, un royaume, un seigneur qui est au-dessus de tous les royaumes. Et quand dans notre vie de tous les jours, on proclame ces choses-là, ça ne peut pas être une demi-vérité. Et quand on les vit avec tout ce que ça implique au niveau des choix de la vie de tous les jours, des choix de carrière, des choix de service, quand Jésus dit « Celui qui veut me suivre », la première chose qu'il dit, c'est une hérésie ici. Enfin, une hérésie pas du point de vue chrétien, mais sur le plan culturel, c'est une provocation incroyable. Est-ce que vous savez quelle est la première chose que Jésus dit à ceux qui veulent être ses disciples? Il dit il doit renoncer à lui-même, se charger tous les jours de sa croix et me suivre. Quand on va en profondeur sur ce que signifie renoncer à lui-même, qu'on vive dans un contexte ici occidental, où qu'on vive au Niger ou n'importe où, c'est de la folie. Parce que les gens, d'abord, ça ne correspond pas du tout à l'air du temps. Mais je pense que c'est un défi de tous les jours, de dire qu'est-ce que ça veut dire que je ne me sers pas moi-même, en premier lieu. Que ce n'est pas mon intérêt, mais que c'est que je me mets sous la seigneurie et à l'écoute de quelqu'un qui va me prendre sur un chemin où quelque part je démontre les mêmes choses que Jésus a démontrées. Il leur dit là aussi aux pharisiens, il ne parle pas de lui-même, il ne vient pas pour lui-même. Alors c'est un petit peu ce qu'on vit, c'est un petit peu ce qu'on expérimente, et tous les jours en fait, dans nos relations professionnelles, dans nos relations avec les patients et les familles, cette exigence de les accueillir, de les aimer, mais en même temps cette exigence d'être vrai dans la foi qu'on veut leur partager, elle devient de plus en plus au centre de ce qu'on vit dans la communauté du staff, du personnel, mais aussi avec beaucoup de femmes et d'enfants qui viennent à notre case de passage. C'est un endroit où les enfants qui viennent de loin, qui doivent rester longtemps, restent parfois 1, 2, 3 mois plus longtemps, et où on leur parle de l'Évangile, on leur parle des histoires de l'Évangile, et plusieurs femmes se sont converties, ont reçu vraiment aussi Jésus. C'est tout un défi, c'est pas facile, mais ce genre de choses aussi surviennent dans ce cadre-là, et c'est encourageant, et c'est pas pour rien qu'on expérimente aussi des réactions dans l'autre sens. Alors on a besoin de vos prières, je vous ai partagé ça pour que vous sachiez aussi un petit peu que voilà, c'est ce qu'on vit un petit peu de manière plus intense ces derniers temps, et que même si c'est fatigant, c'est une bénédiction, c'est un plaisir d'être impliqué comme famille dans cette activité. Mais en même temps, je pense qu'il faut se méfier de dire, voilà, eux, c'est les missionnaires, ils sont là-bas. Je pense qu'il y a des éléments, souvent, quand on dit, on utilise même ce terme, je dis, mais moi, je ne me sens pas un missionnaire, une sorte de Zoulou qui a choisi un type de vie. Pour moi, vivre dans un environnement laïque, quelque part, les dynamiques et les exigences, elles étaient un petit peu les mêmes. Et elles touchent à ce que j'ai un petit peu partagé avec vous. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois que c'est ce que je souhaitais en tout cas partager, vous exprimer de ce qu'on vit un petit peu plus intensément ces derniers temps. Puis après, comme on a un repas communautaire ensemble, bien pour ceux qui souhaitent discuter un petit peu plus, poser d'autres questions, je suis volontiers, Anne aussi, hein, on est à disposition aussi pour discuter, répondre à d'autres questions. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil et le temps que vous nous accordez.
Bien ensemble, le temps passe vite. Alors nous aurons l'occasion peut-être de prier durant la distribution de la Sainte Cène. Et pour introduire cette Sainte Cène, eh bien nous allons chanter le numéro 514, un si grand miracle. Et c'est par ce miracle que nous sommes aussi envoyés.
Sois-tu, Dieu tout-puissant, loué Nous avons un culte mission. La mission, elle vient pas de nous. La mission, c'est tout d'abord celle de Jésus qui est venu dans le monde pour nous rejoindre dans notre réalité. Et jusqu'à donner sa vie, nous allons partager la Sainte Cène. C'est ça le cœur de la mission. Jésus envoyé dans le monde pour nous sauver et qui nous envoie à notre tour pour partager cette nouvelle. C'est cette promesse d'un pardon reçu que nous pouvons donner à notre tour. C'est cette présence de Dieu qui assume nos souffrances, nos infirmités. Jean-François nous a parlé d'infirmités. Jésus a aussi porté nos infirmités, qu'elles soient visibles ou invisibles. Il nous invite à nous souvenir de cette mission-là. Dimanche après dimanche, avec bien d'autres chrétiens dans le monde, avec ceux qui certainement célèbrent aussi au Niger le don du Christ pour nous. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement accompli dans le royaume de Dieu. » Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez le contenu entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garanti par mon sang qui est versé pour vous. » Nous prions. Merci, notre Dieu, merci, notre Père, pour le don de Jésus. Merci de nous avoir rejoints dans notre quotidien, dans nos défis, dans nos infirmités, dans nos culpabilités, et de nous apporter la délivrance. Apprends-nous à vivre au quotidien ce que nous avons d'abord reçu de toi. Amen. Alors, comme d'habitude, au centre des, au centre des plateaux, vous avez du jus de raisin et à l'extérieur, vous avez du vin. Et ceux qui souhaitent partager la coupe, il suffit de lever la main et on vous distribuera la coupe.
C'est Roger qui prendra la coupe. Ouais. Merci. Que chacun se sente libre, s'il croit et s'il affirme que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, de prendre et de partager avec nous ce repas. La famille Negrini, vous êtes les bienvenus.
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En prenant le pain et le vin, c'est aussi dit notre désir que tu poursuis ton œuvre de transformation, de nous rendre semblables à ton Fils. Nous te prions de nous pardonner nos écarts que trop nombreux et nous affirmons notre désir de poursuivre dans ce désir de ressemblance, dans la dépendance de ton esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Et à présent, on va procéder à la collecte avec un chant 272. Jésus soit le centre. Nous allons faire la prière. Je vais lire juste Agé 2.8. L'argent est à moi. À moi l'or, oracle du Seigneur Tout-Puissant. Père Céleste, toi maître de tous nos biens, nous te prions d'accepter ta bonté, non ta bonté, cette offrande que nous te présentons pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons dépasser légèrement la demi, parce qu'on a encore quelque chose d'important à faire. Alors ceux qui doivent absolument nous quitter se sentent vraiment libres de le faire. Envoyés outre-mer, en Afrique, on a aussi des envoyés pas bien loin de chez nous. Et un de ces envoyés, de notre part, c'est Olivier Wenger, qui exerce un ministère d'informaticien dans le cadre de l'école de Cornerstone, de l'évangile, de la mission WEC, je veux pas le dire en anglais, parce que ça serait difficile, et aux Pays-Bas. Et le groupe mission, en discussion avec cette mission aussi, nous avons senti le besoin d'aller le visiter. Là-bas, il parle anglais. Alors, on a choisi deux personnes qui vont partir ce soir pour rejoindre Olivier, l'équipe là-bas, rendre visite à Olivier, à cette école, l'écouter, l'entendre, l'accompagner, lui faire du bien. Une bonne visite, comme on dit. Et ils partent là-bas 3 jours, ils reviendront jeudi. Ils partent ce soir. Il s'agit bien sûr de Roger Sewell, je lui demande de venir vers moi, et puis de Sylvain Dupertuis, du groupe Mission. Donc, ils vont aller là-bas et ils vont le saluer de notre part, le visiter de notre part, de la part de l'EM. Et puis, bien sûr, je vous demande à tous les deux, nous vous demandons à tous les deux, de bien lui transmettre toute notre amitié en Jésus-Christ et de saluer nos frères et sœurs que vous croiserez là-bas, à l'école, à l'église ou ailleurs. Merci de le faire de notre part. Bon voyage. Alors, j'invite Jean-François, notre envoyé, qui va prier pour eux et moi-même.
Seigneur Dieu, nous voulons venir ensemble, comme assemblée, te remettre nos amis qui partent en voyage et en visite, pour que tu les accompagnes, que tu les protèges, mais surtout que tu leur accordes par leur présence, par leur parole, d'être un encouragement aussi là-bas lorsqu'ils seront sur place avec notre ami, pour que vraiment il puisse être fortifié dans son ministère, qu'il sache aussi comment, c'est vrai, le réconforter s'il en a besoin, mais apporter vraiment ta parole dans ce temps où ils iront là-bas. Nous invoquons vraiment la présence de ton esprit et ta vie en eux pour cela. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu nous unis à travers les frontières, les distances, et tu nous unis aussi à Olivier Wenger. Nous voulons, saisissons cette occasion de prier pour lui en Église, tentant de le bénir, de l'encourager, de renouveler en lui ta joie, ta paix, ton amour, et cette envie de servir. Et bien sûr, nous te remettons, Sylvain et Roger, dans ce voyage, d'une manière pratique aussi, que tout se passe bien. Merci pour leur disponibilité. Tu les gardes et tu les encourages. Et tu les bénis dans ce qu'ils vont vivre avec Olivier là-bas, ce qu'ils vont partager. Qu'il soit pour lui aussi ce réconfort, cette amitié, de notre part et de ta part surtout. Nous les bénissons, avec bien sûr l'oncle d'Olivier aussi qui va les accompagner. Nous les bénissons en ton nom. Amen.
Peut-être que je vais les commenter d'ici. Donc, mardi, c'est l'occasion de se retrouver pour prier ici, 20h15, et à la veille du colloque, qui est donc mercredi soir, où, entre autres, il y aura la votation concernant la candidature de Philippe Anchaud. Nous avons reçu les enveloppes. Si on est dans l'impossibilité d'être présent mercredi soir, il faut envoyer votre enveloppe de vote selon les instructions lundi ou mardi au plus tard. Tout est expliqué dans le courrier que vous avez reçu. Donc, il s'agit de suivre les instructions et donc, nous sommes tous vivement encouragés à voter. C'est important de se prononcer. Dimanche prochain, Les cultes partagés avec l'Église protestante, Mérin-Centre, démarre, et le culte, effectivement, sera pas ici dimanche prochain, mais au CEPOM. Même heure, à 10 heures, et nous allons aborder dans les huit cultes la question des 500 ans de la Réforme, redécouvrir la Réforme pour nous aujourd'hui. Donc, dimanche prochain au CEPOM, pas ici. Voilà, il y a des flyers avec le programme que nous pouvons prendre pour l'ensemble de ces huit cultes. Alors, comme c'est notre habitude, il y aura quatre fois grillade, et vous avez les dates là des grillades. Vous connaissez, je vous rappelle, le système. On apporte quelque chose à mettre sur le grill qui est mis à disposition, et nous apportons salade, etc. Et c'est un temps de partage très sympa autour des tables. À partir de 18h30, les mercredis par quinzaine, commençant le 5 juillet. Alors, c'est notre départ qui se prépare, et le dernier dimanche du mois d'août, il y aura un culte de fin de ministère que nous sommes invités à mettre dans nos agendas. Alors, si vous avez toujours pas envoyé votre photo, je crois que Sylvain Dupertuis a pu photographier beaucoup d'entre nous ces derniers temps. Si c'est toujours pas le cas, veuillez vous présenter à Sylvain Dupertuis ou Claude Becher qui est pas avec nous aujourd'hui. Voilà, pendant ces huit cultes, comme chaque été, il y a le désir que les enfants soient accompagnés. Si c'est dans vos disponibilités, vous êtes invités à venir voir soit Zéna, soit Nicolas, qui sont les deux ici au deuxième rang. La bibliothèque. L'été, il faut espérer qu'on a un peu plus de temps. Et il y a beaucoup de bons livres dans la bibliothèque. Pas seulement en français. Donc, vous êtes invités à choisir des livres pour vous-même ou pour des amis. C'est aussi possible de saisir l'occasion de rattraper un peu de bonne lecture. Donc, la bibliothèque serait à disposition. Kids Games, il y a potentiel en début juillet. Il y a Kids Games au mois d'août, fois deux fois. Là aussi, si vous pouvez ou désirez vous impliquer d'une manière ou d'une autre, c'est Thierry Terra qui fait la projection que vous devez rencontrer suite à ce culte. Alors, il y a le repas canadien. J'ai encore juste deux, trois choses, comme vous voyez. Merci beaucoup pour Robert. Il y a le repas canadien, comme Jean-François l'a signalé. C'est l'occasion d'un temps de questions-réponses entre le plat principal et le dessert. Et c'est une manière de mieux découvrir ce que vous vivez au Niger. Une annonce qui n'est pas là-dessus. Vous souvenez que pour les paquets de Noël, ça semble très lointain, mais au mois d'octobre, chaque année maintenant, il y a une collecte de nourriture et d'autres autres choses à la COP ou à Mérin-Centre. Ni Béatrice Lédevant, ni Anne-Marie Wenger, ils sont pas disponibles cette année. Donc, si ça va avoir lieu, nous avons besoin d'une personne qui est d'accord de prendre ça en charge. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, venez me voir après le culte, je vous expliquerai. S'il y a personne cette année, ça n'aura pas lieu cette fois. Oui, Marianne, il faut prendre le micro.
voulais juste rappeler la rencontre du fil d'argent le 4 juillet, mardi 4, à 14h30, ici. Ce sera une petite rencontre un peu informelle pour se revoir encore une fois avant les vacances. Et nous chanterons, enfin, il y aura différentes choses. Alors, mardi 4 à 14h30, ici.
Oui, oui, alors c'était, merci, parmi tout ce que j'ai laissé tomber là, il y a le week-end d'église, la publication, le flyer est arrivé et vous allez recevoir ça à la sortie du culte, week-end, la bénédiction faite passée, église évangélique de Merin, c'est le 14-15 octobre. Donc, ne partez pas sans ce flyer. Merci.
C'est bon? C'est bon. Alors, moi, j'ai encore. Encore? Alors, vas-y. Ah non, j'ai... Oui, vas-y, vas-y.
Alors, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas su, quand même dire, donc, le décès de Lily Serex... qui est décédé cette semaine. Il y a eu l'enterrement. Alors, on aimerait dire à Michel et Claire-Lise toute notre amitié, toute notre sympathie. Lily a été dans les pionnières de cette église. Et c'est vrai que c'est une étape aussi pour l'église. Alors, Michel et Claire-Lise, toute notre sympathie.
Et encore, puisqu'on est dans un culte mission... Rappelez qu'une de nos membres, Rachel Meyer, va partir au mois de juillet à Madagascar avec une équipe de la colline. Et là aussi, j'en ai parlé un peu avec elle et elle aimerait bien qu'on pense à elle, qu'on l'accompagne aussi. Et je crois que j'invite chacun à le faire. Et pas oublier ces jeunes qui partent en stage, qui vont voir et qui peut-être vont déboucher sur quelque chose plus tard. On a aussi reçu le MAME Info, la mission évangélique indépendante de Madagascar. J'en ai quelques-uns de ces bulletins d'informations. Ils sont déposés à la sortie vers le panneau d'affichage. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction. Le Christ nous dit dans l'évangile de Jean, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Va, allons, et proclamons cette gloire de Dieu, comme on l'a dit au début de ce culte. Que la grâce et l'amour de Dieu manifestés en Jésus-Christ vous accompagnent dans ces jours qui viennent. Bon dimanche et bel été à chacun.